Il y a 6 mois, tout le monde, mais tout le monde, vous aurait juré la main sur le cœur que la Fed allait baisser ses taux au moins 3 fois cette année. 3 fois. Ce matin, le marché monétaire américain price une hausse des taux d'ici décembre. Pas une probabilité, pas un scénario. À 100%, une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Et vous savez combien de gens en parlent ce matin? Bah, pratiquement personne. C'est le désert de Gobi au niveau des news sur ce sujet. Oui, parce qu'en fait, tout le monde regarde d'ailleurs ce matin. Tout le monde regarde le vendeur de cartes graphiques qui a publié ses chiffres hier soir. Alors moi, je veux bien qu'on parle encore de Nvidia. D'ailleurs, on va en parler quand même un petit peu parce qu'on a quand même bien parlé déjà cette nuit. Mais pendant que vous aviez les yeux sur Jensen Huang, 4 banques centrales sur la planète ont dit exactement la même chose en 24 heures. Et ce qu'elles ont dit, ça change un petit peu la big picture mondiale quand même, au niveau de l'économie. Enfin, pour moi, ça change tout. Mais globalement, tout le monde s'en tamponne quand même parce qu'hier, il y avait Nvidia. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais aussi vous raconter une histoire de 1999 qui a certains parallèles avec ce qui se passe en 2006 aujourd'hui. Une histoire de préfixe, vous allez voir, c'est assez rigolo. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le jeudi 27 août 2026, je suis Thomas Veillet et ce matin, on ne va pas faire la vidéo que tout le monde va faire parce que la vidéo Nvidia, je l'ai déjà tournée cette nuit. À 2h du matin, sans café mais avec de la tisane et une grosse fatigue parce que globalement, j'aurais mieux fait d'aller me coucher. Elle est en ligne sur la chaîne Swissquote en français, elle dure 13 minutes et dedans, je vous explique pourquoi le meilleur trimestre de l'histoire du capitalisme cache une ligne du bilan que personne n'a lue. Allez la voir, le lien est dans la description et elle s'appelle le trimestre parfait.
Cette émission vous est présentée par Swissquote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, quand même, 3 minutes sur Nvidia parce qu'il faut poser un petit peu le décor. Hein. Hier soir à 22h20, Nvidia publie ses chiffres, le chiffre d'affaires a doublé en un an, 96,2 milliards, les data centers sont à 89 milliards de revenus, plus 117%, réaction immédiate du marché, moins 2,9. 30 minutes plus tard, plus 5%. Rien n'a changé entre les deux moments, la publication n'était pas différente 30 minutes plus tard, le communiqué était le même, les chiffres étaient les mêmes, la société était la même, sauf qu'entre-temps, il y a une dame, qui a prononcé un nombre, un chiffre au téléphone. La directrice financière de Nvidia a dit « On vise 70% de croissance sur l'exercice 2028 ». Le consensus, il était à 44%. Et là, d'un coup, tout le monde a retrouvé la foi, comme disait Ophélie Winter. On comprend vite, il faut juste nous expliquer longtemps. Alors pourquoi la réaction négative au départ? Bah à cause d'un point, un seul point de marge brute. La marge est passée de 75 à 74% et ça descendra autour de 71-72% normalement d'ici le mois de janvier. La raison? Ah, eh ben Nvidia se fait racketter sur la mémoire. Oui, vous avez bien entendu, la société la plus rentable de l'histoire du capitalisme, 5 000 milliards de capitalisation et des brouettes, des marges à 74%, elle se fait braquer par ses propres fournisseurs. Il n'y a plus une puce mémoire disponible sur la planète entière, les prix explosent et ça mord, ça tape dans la marge de Nvidia, évidemment. Mais le truc que personne n'a relevé au milieu de tout ça, c'est que si Nvidia annonce 70% de croissance sur un exercice qui n'a même pas commencé, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'ils ont déjà verrouillé la mémoire correspondante. Ils l'ont réservée, elle est à eux, donc il n'en reste plus pour les autres. Enfin, c'est la réflexion de base, hein. Le titre monte et la moitié du secteur des semi-conducteurs devrait être en train de flipper. Mais personne ne s'est posé la question hier soir. En revanche, si vous ne deviez retenir qu'une chose de ce chapitre Nvidia, c'est celle-là. Les fabricants de mémoire vont passer une très très belle journée. Micron, Samsung, Hynix, SanDisk, regardez l'accord ce matin, le KOSPI a même tapé plus 2,8% en séance, après ça se redéconflait un peu, mais quand même, c'est pas Nvidia qui fait monter ses houles, c'est la pénurie. Voilà, pour le reste, la vidéo sur le sujet Nvidia, elle est en description en bas. Maintenant, on passe au vrai sujet. Et le problème, c'est qu'avant Nvidia, il y a eu autre chose. Oui, il y a eu l'inflation américaine, le PCE de juillet, sorti hier à 14h30, 8 heures avant les chiffres du trimestre, et enterré vivant quasi immédiatement, parce que tu comprends, il y avait Nvidia. Donc le chiffre du PCE, c'est 3,7% sur une année, on attendait 3,6%, la version core, celle qui vire l'alimentation et l'énergie, celle que la Fed regarde vraiment, reste collée à 3,3%. Et sur le mois, plus 0,2 partout, là on entendait plus 0,1. Alors, je sais que vous vous dites, ah, dixième de point, la belle affaire. Ouais, sauf que le problème, c'est pas dans l'écart. Le problème, c'est dans l'immobilité. Regardez ce que fait cette foutue inflation depuis le début de l'année. Elle ne s'aggrave pas vraiment, mais elle ne recule pas. Elle ne recule plus, elle s'installe. Elle a posé ses valises, elle a pris ses aises, elle a demandé le code du Wi-Fi et elle a l'air de vouloir s'incruster pour un moment. Et une inflation à 3,3% qui refuse de bouger avec un objectif à 2%, ça s'appelle pas une inflation transitoire. Ça s'appelle un régime sec. Sur 3 ans, ça fait quand même 10% d'inflation. Alors voilà ce qui se passe dans les coulisses pendant que tout le monde parle de puces et de cartes graphiques. En surface, il se passe rien. Le 10 ans américain est toujours à 4,65. Le 2 ans à 4,22. Le mouvement est quasi nul. Mais derrière, sur le marché obligataire, là où les gens sérieux mettent leur vrai argent, on price maintenant à 100% une hausse des taux d'ici le mois de décembre. 100%, ça veut pas dire c'est sûr. Ça veut dire que le marché ne discute même plus d'une autre hypothèse, d'une autre alternative. La question est de combien elle monte et quand. Et moi, je remets encore une pièce dans le jukebox ce matin parce que c'est important. Hein. Il y a 6 mois, le consensus absolu, celui de tout le monde dans toutes les banques, c'était 3 baisses de taux en 2026. 3 baisses. On est passé de 3 baisses hypothétiques à une hausse certaine. En 8 mois, sans que personne ne s'excuse, sans que personne ne révise publiquement, sans qu'aucun stratège ne dise « Bon d'accord, on s'est planté ». Et demain, Kevin Warsh va monter sur scène à Jackson Hole. Ça sera son premier grand discours de sa vie en tant que président de la Fed. Un type qui a fait de la communication minimale sa marque de fabrique. Le type dont personne ne sait vraiment ce qu'il pense de l'inflation et qui n'a jamais trop communiqué sur le comment il allait faire pour la mettre à genoux. Donc, nous, on va passer la journée de demain à décortiquer les silences d'un homme qui a bâti toute sa réputation sur le principe de fermer sa gueule. Et maintenant, alors, le morceau que j'attendais avec impatience, parce que c'est pas qu'une histoire américaine, ces histoires de taux, pas du tout, du tout, surtout pas en ce moment. Parce que pendant que vous dormiez là, tranquillement, cette nuit, la Banque de Corée, elle a remonté ses taux. Deuxième hausse consécutive quand même. Et pas que ça va mal, hein. Au contraire, ils ont relevé leur prévision de croissance de 2,6 à 3,3%. Ils montent les taux parce que ça va trop bien et que l'inflation ne redescend pas. Merci quand même au principe des puces mémoire. Le numéro 2 de la Banque du Japon a parlé également hier. Il a laissé la porte grande ouverte et toutes les fenêtres aussi à une hausse le mois prochain. Le Japon, le pays qui a inventé les taux à zéro, le pays qui a passé 30 ans à supplier de voir l'inflation revenir. Et là, elle revient un petit peu trop vite quand même. Le 3% sur le 10 ans japonais, à mon avis, c'est pour cet automne ou alors j'y comprends rien. Et puis ça s'arrête pas là. Les swaps australiens intègrent un tour de vis d'ici la fin de l'année. Les néo-zélandais parlent de monter les taux la semaine prochaine. Alors vous additionnez les États-Unis, la Corée, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout ça en 24 heures. Et on laisse entendre que la BCE pourrait s'y mettre aussi. Tout le monde resserre, partout, en même temps. Bon, sauf les Suisses. Et vous savez comment ça s'appelle tout ça? Ça s'appelle un cycle de resserrement monétaire mondial. Sauf que personne ne l'appelle comme ça. Oui, parce que ça ferait désordre dans les commentaires de marché. On préfère nettement dire que les banques centrales normalisent. C'est beaucoup plus joli et ça fait moins peur. Mais ça veut dire exactement la même chose. L'argent redevient cher. L'argent redevient cher pile au moment où l'humanité se lance dans la construction de la chose la plus coûteuse en capital de toute son histoire industrielle. Les data centers, les centrales électriques, les centrales nucléaires, les mini-centrales nucléaires, les milliers de milliards d'infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Les 4 gros, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, ont annoncé entre 730 et 750 milliards de capex en infrastructures cette année, contre 400 en 2025. Plus 80% sur des budgets qui étaient déjà délirants. Et l'an prochain, ça sera pire. Et tout ça, à la fin, ça se finance avec de la dette. Une dette avec un taux d'intérêt qui va être encore plus cher dans 6 mois. 0,25, 0,5 de plus. Mais sur 1000 milliards, ça commence à faire du pognon. Vous voyez le petit problème de calendrier qu'on a en ce moment quand même. On construit la cathédrale au moment précis où le prix du ciment est en train de doubler. Bon alors maintenant, si vous trouvez que je noircis le tableau comme d'habitude, attendez parce qu'il y a le meilleur qui arrive en ce moment. Parce qu'on peut se demander pourquoi cette inflation ne veut pas descendre. Et là, il y a une réponse assez simple, on l'alimente tous les jours. Premier ingrédient, eh oui, l'essence. Les Américains n'ont jamais payé leur carburant aussi cher qu'aujourd'hui à cette période spécifique de l'année. Jamais, J-A-M-A-I-S, record absolu de la fin du mois d'août. Et vous vous rappelez le grand argument de ces dernières semaines, le détroit d'Hormuz allait rouvrir, le pétrole allait s'effondrer, tout allait rentrer dans l'or, bla 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 bla. Deuxième ingrédient, et c'est là que ça devient croustillant, le détroit d'Hormuz, justement. Mercredi, Trump l'a redit à la télévision, je cite, « Les mines ont disparu, on s'est débarrassé des mines ». Le détroit, selon lui, fonctionne très bien. Le même jour, les alliés des États-Unis ont expliqué en privé que le détroit est toujours miné et qu'il reste environ entre 80 et 150 mines dans la nature. Et le meilleur du détail, le plus croustillant, c'est que beaucoup d'entre elles ont dérivé avec les courants et on ne sait même plus où on les avait posées. On ne sait même pas où elles sont, ni combien elles sont. C'est un peu comme traverser un parc à chiens les yeux bandés. Il y a bien une chance que vous marchiez dedans, même si ça porte bonheur. Donc non seulement, il y a encore des mines, mais en plus, plus personne ne sait où elle se trouve. Et l'Organisation Maritime Internationale, elle a republié mardi son avertissement recommandant aux navires la plus grande prudence. Donc, d'un côté, vous avez un président qui dit que c'est open bar pour tout le monde, et de l'autre, l'organisme international qui gère la sécurité maritime qui dit aux bateaux de ne pas y aller. Et devinez qui a raison pour l'instant. Et devinez surtout qui paye l'écart entre les deux versions. Hé, c'est vous, à la pompe. Troisième ingrédient de tout ça, celui dont personne ne parle pour l'instant, mais ça viendra, le blé. Le blé vient de toucher son plus haut depuis 3 ans à cause des attaques sur les navires et les infrastructures en mer Noire. Ça, c'est l'autre guerre qui fout le bordel, hein. Ukraine et Russie. Et puis, c'est pas parti pour trouver un accord de paix. Le blé, c'est le pain, les pâtes, la farine, l'alimentation animale, donc la viande. C'est l'inflation la plus visible qui existe, celle qui se voit dans le caddie, celle qui énerve les gens concrètement. Alors quand on me demande pourquoi l'inflation ne recule pas alors que les banques centrales font ce qu'il faut, eh ben le carburant est au plus haut, le blé est au plus haut, et le détroit par lequel passe un cinquième du pétrole mondial est un champ de mines dont on a perdu le plomb. Quelle surprise ! Vraiment ! Bon allez, on change de registre. Hier soir, Salesforce a publié ses résultats trimestriels aussi, beaucoup moins intéressants que Nvidia, mais le titre prenait quand même 14% après la clôture. Bénéfice net en hausse de 87%. Formidable ! Champagne ! Juste 2 secondes, sauf que dans ces 87% de hausse du bénéfice, il y a 2,6 milliards de dollars de plus-value sur leur participation, dont Anthropic. Anthropic, c'est la société qui fait Claude. Une société non cotée, une société dont personne, mais alors personne ne sait combien elle vaut réellement, puisqu'il n'y a pas de marché pour l'échanger. Donc, on réévalue à la hausse une participation dans une boîte non cotée, on met la différence en résultat et le bénéfice, bam, plus 87%. Combien de dollars de cash Silkin a-t-elle rapporté? 0. Combien de clients supplémentaires? 0. Combien de logiciels vendus en plus chez Salesforce? Ben 0. Le titre reculait quand même de 22% depuis le mois de janvier, avant la publication, et là il fait plus 14 hier soir grâce à une écriture comptable. Et ça, c'est un mécanisme qu'il faut quand même surveiller de très près. Oui, parce que tout le monde a une participation dans quelqu'un en ce moment. Nvidia est actionnaire d'OpenAI, d'Anthropic et de plein d'autres. Amazon et Alphabet sont actionnaires d'Anthropic. Microsoft est chez OpenAI. Tout le monde détient un bout de tout le monde et tout le monde se réévalue mutuellement à la hausse. Et ça marche très bien. Enfin, tant que ça monte. Ah oui, et puis alors, pendant qu'on est dans le grand théâtre d'hier soir, Meta a signé un chèque de 17 milliards de dollars à plusieurs États américains pour solder les accusations sur la protection des mineurs. 17 milliards. Et le titre a pris 1%. Parce que finalement, on a trouvé que 17 milliards, c'était pas si cher pour ce genre de problème. Bon, voilà. Maintenant, je vous avais promis une histoire de préfixe. La voilà. Anthropic, le même Anthropic, encore eux, s'apprête à entrer en bourse, vous l'avez entendu bien sûr, et dans son document de présentation aux investisseurs, il va y avoir un chiffre qui dit la taille du marché qu'il vise. Ce chiffre, c'est 30 000 milliards de dollars. 30 000 milliards. Alors, pour situer, parce que ces nombres ne veulent plus rien dire à force, les 191 sociétés technologiques de l'indice S&P ont réalisé l'an dernier, tous ensemble, absolument tous, 2 400 milliards de chiffre d'affaires. Le marché revendiqué par une société, une seule société, représente donc 12 fois le chiffre d'affaires de toute l'industrie technologique américaine cotée en bourse. Et c'est même pas un record. SpaceX va annoncer 28 500 l'autre jour, en juin, en le qualifiant de, je cite, « le plus grand marché de l'histoire de l'humanité ». Uber, En 2019, c'était contenté de 6 000 milliards à l'époque. Et on trouvait déjà ça vachement gonflé. Alors voilà mon histoire à moi qui me rappelle des souvenirs. En 1999, on achetait des supraconducteurs. Pourquoi ? Ah ben parce que c'était mieux que des semi-conducteurs. Pourquoi c'était mieux ? Bah parce que supra, c'est mieux que semi comme préfixe. Voilà, c'était l'argument de vente de base. Et je plaisante pas. Je vous jure que personne n'osait le critiquer. Vous passiez pour le vieux con qui avait rien compris à la nouvelle économie. En 2001, tu passais pour un vrai con parce qu'avec tes supra qui valaient plus rien du tout. Mais en 1999, t'avais l'argument qui tuait pour faire un carton dans tes ventes, si t'es sales dans une banque ou dans ton portefeuille. Et c'est exactement où on en est. 30 000 milliards, c'est le supra de 2026. C'est un nombre calculé par quelqu'un qui a additionné tout le travail humain existant sur la planète et qui a mis le résultat dans une case Excel. Case Excel qui, ironie du sort, est maintenant gérée par l'IA elle-même. 30 milliards. À peine moins que la dette américaine. Une entreprise qui n'est pas encore cotée revendique donc un marché qui fait les trois quarts de la dette de la première puissance mondiale. Et puis alors, je vais quand même revenir deux secondes sur Nvidia. Non, parce qu'il y a une chose que j'ai notée sur mon bloc-notes de ce matin. Après son show, Jensen Huang est allé sur CNBC pour parler de financement circulaire. Et il n'a pas nié le montage. 105 milliards de garanties sur un campus dans l'Ohio, dont OpenAI sera le locataire. Un partenariat avec six grandes maisons financières pour arranger jusqu'à 500 milliards de financement de data centers. Et la défense de Jensen Huang est la suivante. Ces sociétés ne sont pas investment grade, elles n'ont pas d'historique financier, c'est quasiment des startups. Donc Nvidia, elle les aide, parce qu'Nvidia, ils sont quand même sympas. Et si l'une d'elles se plante, qu'est-ce qui va se passer ? Ah bah selon Jensen Huang, toujours le risque est faible, parce qu'on pourra de toute façon redéployer les systèmes, les machines, chez quelqu'un dont tout va bien, donc tout va bien. C'est exactement ce que disaient les loueurs de fibre optique en l'an 2000, mot pour mot. Et je m'en souviens très bien, hein, parce qu'à l'époque, je trouvais l'argument hyper bon. Ah oui, puis on retiendra aussi que Huang a déclaré qu'on avait déjà atteint l'AGI, l'intelligence artificielle générale, avant d'ajouter que ce genre de jalon était un peu vide de sens. Alors l'AGI, c'est pour Artificial General Intelligence, c'est le moment où l'IA cesse d'être un outil spécialisé et devient capable de se débrouiller intellectuellement dans presque tous les domaines comme un humain. Hein, voire mieux, sûrement mieux, en tout cas beaucoup mieux que ceux qui passent leur temps sur TikTok. On attend donc le Graal et on annonce dans la même phrase que le Graal n'a pas tant d'importance que ça. C'est magique, vraiment. Vivement l'intelligence artificielle supérieure, qu'on nous ponde des Terminators à tous les coins de rue, ça sera vraiment bien. Autrement, demain, Warsh parlera donc à Jackson Hole. Le challenge sera de savoir si le type qui tient le robinet de l'argent mondial a compris qu'il est en train de le fermer pendant que la moitié de la planète construit la plus grosse machine à consommer du capital jamais imaginé. D'ici là, allez voir la vidéo Nvidia sur la chaîne Swissquote, elle est en ligne depuis cette nuit, le lien est toujours en dessous. Autrement, on like, on commente, on partage et on s'abonne comme d'habitude. Et on se retrouve bien sûr demain matin pour savoir si le marché a vraiment digéré tout ça ou s'il a juste fait semblant. Oui, cette fois, il n'y aura pas de vidéo cette nuit. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.